La première,
11h midi,
question clé.
Question clé
avec Véronique Thiberghien.
Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission Question clé. Que vous ayez bien ou mal dormi cette nuit, on va parler du sommeil. Et oui, le sommeil est une des données essentielles de notre vie aujourd'hui. Un tiers de notre temps est passé à dormir. Quand tout va bien, évidemment. Et malheureusement, la plupart du temps, ça ne se passe toujours pas de la même façon, pas de la façon dont on aimerait. C'est-à-dire, on décide d'aller se coucher, on se met au lit, on ferme les yeux. Et puis là, le sommeil ne vient pas et on commence à tourner. On décide de se lever, d'aller devant la télé. Ah, grave erreur, bien sûr, pour trouver le sommeil. Et puis on va se recoucher et le sommeil ne vient toujours pas et ça devient angoissant. Angoissant pourquoi ? Parce que vous le savez, le sommeil, c'est bon pour la santé, c'est même une donnée essentielle. Et plus on avance dans les recherches en matière de science et de médecine, et plus on s'aperçoit que les liens entre la santé et le sommeil sont tellement ténus que ne pas passer une bonne nuit, c'est déjà angoissant pour chacun d'entre nous. Vous n'avez pas bien dormi ? Expliquez-nous ce qui s'est passé. Vous êtes de mauvais dormeurs ou de mauvais coucheurs d'ailleurs. N'hésitez pas à en témoigner dans cette émission. Et si vous dormez bien, partagez avec nous vos bonnes recettes. Ça nous fera du bien et ça nous fera plaisir. Le téléphone 02 737 26 06 pour réagir. Vous pouvez également utiliser les messages par SMS au 6031 ou bien tout simplement aller sur le site lapremière.be. Vous cliquez sur l'icône de l'émission, vous laissez votre message. Vous n'avez pas eu le temps de noter le numéro de téléphone ? Allez, on vous le redonne.
Partagez votre expérience au 02 737 26 06.
11h midi sur la première.
Question clé.
Question clé.
On va bien sûr reparler dans cette émission des troubles du sommeil et essayer de rappeler aussi ce qu'est un bon sommeil. On va aussi vous parler des nouvelles avancées, des nouvelles découvertes en la matière. Il est vrai que les liens entre le sommeil et la santé sont de mieux en mieux connus et perçus et que surtout, eh bien, effectivement, avoir un bon sommeil régulier, ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui vu le nombre de médicaments qui sont consommés chaque année par les adultes mais de plus en plus par des adolescents aussi, afin de permettre un meilleur, entre guillemets, endormissement, eh bien ces chiffres font peur et nous montrent à quel point cette donnée du sommeil est devenue essentielle. Et c'est vrai, deux personnes m'ont dit aujourd'hui qu'elles dormaient bien, et ça m'a surprise. Et ça, c'est un réflexe que nous avons aujourd'hui. Les gens qui dorment bien nous embêtent, quelque part. Alors, nous sommes surpris de les rencontrer. Et la première action que nous avons, c'est vrai ? Tu dors bien ? Jamais ? T'as pas de problème ? Et oui, dormir est devenu une denrée si rare qu'elle nous surprend. On va parler aussi de bien dormir sans médicaments, grâce à la sophrologie, avec Clémence Peix-Lavallée, qui interviendra dans cette émission, mais en direct avec nous. Et en studio, nous avons le docteur Catherine Gillin. Bonjour.
Bonjour.
Neurologue. Alors avec vous, on a souvent déjà parlé du sommeil, mais j'ai l'impression que la situation, elle empire d'année en année. Est-ce que ça ne devient pas une angoisse de bien dormir ?
C'est possible qu'effectivement, comme vous disiez, ça devient une angoisse à partir du moment où on sent que c'est une obligation, mais que les gens, d'une part, se disent qu'ils ont autre chose à faire. Hein, on entend beaucoup cette phrase-là. Ouais. Et d'autre part, quand le sommeil, justement, ne vient pas au moment où les gens le voudraient, ça c'est important aussi, on peut en parler, finalement, il y a une espèce d'engrenage qui fait qu'ils craignent finalement d'aller dormir. Alors que c'est une fonction physiologique tellement fondamentale qu'au contraire, je pense que si on peut avoir un but positif à cette émission, c'est au moins que les gens en sortent en ayant compris que c'est vraiment la clé de la santé.
Mais c'est quoi un bon sommeil finalement ? Parce qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil.
Non, on n'est pas tous égaux pour des raisons qui peuvent être génétiques, ça c'est vrai aussi. Il y a des maladies du sommeil parce que c'est une fonction physiologique comme une autre, donc elle peut bien fonctionner ou mal fonctionner, comme dans tout autre organe. Mais bien dormir, c'est se réveiller le matin, si possible, spontanément d'ailleurs, frais, reposé, et la journée, ne pas avoir trop de coups de pompe, parce que physiologiquement, on peut avoir des petits coups de pompe en cours de matinée et après le repas de midi, ça c'est naturel, mais pas non plus des gros accès de somnolence. C'est rester attentif, vigilant, vraiment, voilà, bon fonctionnement physique et intellectuel. Et c'est aussi, quelque part, mais ça, on ne s'en rend pas compte, évidemment, au jour le jour, le garant d'éviter beaucoup de problèmes de santé, tant au niveau intellectuel et neurologique qu'au niveau du reste du corps d'ailleurs.
Est-ce qu'on peut dire quand même, sans trop s'avancer et sans donner forcément de chiffres, que la plupart des gens, puisqu'on dit qu'un actif sur trois a du mal à bien dormir, que la majorité de ces gens-là ont quand même des problématiques de sommeil qui sont plutôt liées à des mauvais comportements?
Absolument.
On n'est pas mauvais dormeur, on est plutôt mauvais coucheur.
Alors ça c'est très très vrai et c'est fondamental. Il y a des maladies du sommeil, oui. Mais la plupart du temps, c'est un mauvais comportement de mise au lit. Et je dirais même, c'est une non-acceptation de notre horloge biologique. Et c'est ce qui est, je trouve, le plus frappant dans notre type de société. C'est que les gens imaginent que la vie importante est la vie un peu qu'ils dominent, entre guillemets, ouais. Ce qu'ils décident de faire. Et tout doit rouler comme ils le veulent. Et ils oublient que nous fonctionnons, tout notre corps fonctionne sur une horloge biologique de 24h20 d'ailleurs, c'est même un peu, on la met à mal, oui. Et que plus on respecte l'horloge biologique, mieux l'ensemble de notre métabolisme fonctionne. Ça veut dire quoi, métabolisme? C'est vraiment toutes les fonctions qui permettent à nos différents organes, à nos différentes cellules, de pouvoir fonctionner correctement et avoir finalement une bonne santé. Et une bonne santé, c'est aussi pouvoir faire des réparations là où on fait des petites erreurs au niveau immunité, au niveau génétique, au niveau cellulaire, au niveau protéines. C'est aussi recréer des nouvelles protéines, recréer de la nouvelle matière, c'est éliminer les déchets de ce que l'on fabrique pendant notre activité. Et donc c'est vrai que c'est absolument fondamental de pouvoir respecter cette horloge biologique. Et l'horloge biologique est principalement lié à l'alternance lumière-obscurité. Donc, premier constat, c'est que théoriquement, on devrait dormir plus l'hiver et moins l'été. Mmh. Et donc, quelque part, on devrait travailler moins l'hiver et plus l'été.
Si à bon entendeur.
Ben oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je pense qu'on en avait déjà parlé. Finalement, on prend des vacances d'été au départ parce qu'on avait libéré les enfants de la scolarité pour pouvoir aider dans les champs. Hein. Oui. C'était ça, l'origine. Mais donc, c'est vrai qu'on impose déjà des horaires qui sont les mêmes. L'hiver, l'été, vous avez toujours travaillé avec les mêmes horaires, vous avez toujours la même alternance. Donc, on met déjà à mal notre horloge biologique. Mais en plus, on la met à mal, par exemple, par l'avènement de l'électricité, qui nous apporte de la lumière le soir, des stimulus le soir. Et donc, on n'observe plus l'apaisement nécessaire de l'activité cérébrale avant d'aller dormir. Parce qu'un sommeil, ça se prépare. Alors, il y a quelques rares bienheureux qui peuvent effectivement s'endormir dès qu'ils posent la tête sur l'oreiller. Mais la plupart du temps, on doit avoir une préparation métabolique. Il faut diminuer notre température corporelle. Si la température corporelle reste élevée, on ne s'endort pas. Donc, pas être trop actif physiquement non plus le soir.
Ah oui, ça veut dire par exemple que le bain chaud qu'on prend parfois le soir, en se disant ça va me délasser, puis après je vais me coucher, c'est pas bon.
Non, c'est pas bon.
Pour un bain froid.
Peut-être pas non plus. Dis donc, ce qu'il faut faire, par exemple, ce qui est l'idéal, c'est de faire un petit sas quand vous rentrez du boulot. Là, oui, avoir une petite activité physique, faire une promenade un peu rapide pour vraiment décharger l'accumulation du stress de la journée. Rentrer, prendre une petite douche, disons, bien tiède, on va dire, pas trop chaude. Déjà, préparer votre corps à cette relaxation, oui, sûrement. Mais pas le bain chaud avant d'aller dormir, pas le match de squash avant d'aller dormir, sûrement pas. Parce que là, physiologiquement, votre corps n'est pas prêt.
Pas d'écran, pas de surstimulation avant d'aller dormir. Se ménager aussi une petite fenêtre de décontraction, genre petite lecture, par exemple.
Lecture sur papier.
Sur papier, oui.
Pourquoi ? Alors, les écrans, c'est très, très important parce que c'est un mal du siècle. Les gens ne regardent même plus la télé. Ils regardent leurs séries sur leur ordinateur, etc., etc. Or, la lumière de la télévision, ça va. C'est pas lumière bleue. Par contre, la lumière des smartphones et des écrans, c'est une lumière bleue, c'est une lumière jour. Donc, vous dites à votre cerveau, c'est le jour, c'est le jour, c'est le jour, c'est le jour. Et puis, vous, tout à coup, vous fermez. Et il dit, ben non, ça peut pas être la nuit, puisque tu viens de me dire que c'était le jour. Et donc, il faut essayer, effectivement, de ne plus regarder les écrans au moins 2 heures avant d'aller dormir. Mais sincèrement, les livres en papier, c'est encore très sympa. Les revues aussi, et la télévision, pourquoi pas. Mais il faut préparer vraiment physiologiquement cette possibilité de mettre en route toute la biologie du sommeil, parce que c'est un grand fonctionnement biologique.
Et ce fonctionnement biologique, eh bien, il est aussi souvent perturbé par la prise de médicaments. Alors d'une part, il y a les médicaments qu'on peut prendre durant la journée, parce qu'on veut soigner par exemple un rhume, une sinusite ou autre. Et il faut quand même savoir que la plupart de ces médicaments aujourd'hui ont des effets secondaires qu'on ne lit plus sur les notices. Mais souvent, et bien souvent, sur les effets secondaires, on lira petits troubles du sommeil ou légers troubles du sommeil. Il faut prendre cela évidemment en compte. Et puis, d'autre part, les médicaments que l'on prend pour pouvoir aller dormir. Mmh. Et nous sommes quand même en surconsommation aujourd'hui encore de ce type de médicaments.
Tout à fait d'accord avec vous. Alors, par rapport aux médicaments qui ne sont pas des somnifères et qui ont des répercussions, ça c'est très très important. Il existe d'ailleurs maintenant une tendance à la chronopharmacologie. Pourquoi ? Parce que notre métabolisme n'est pas du tout le même le matin, le midi, le fin de journée, le soir. Et donc, il y a des moments où votre corps va être beaucoup plus apte à accepter la médication et à la rendre plus active que d'autres. Et effectivement, il y a des effets secondaires importants qui soient stimulants. Par exemple, si vous prenez des médicaments qui contiennent un petit peu de caféine, ou si, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Des médicaments contre l'asthme, parfois, peuvent être vraiment aussi très éveillants. Les gens qui fument, une cigarette, c'est de la nicotine. La nicotine, c'est quoi ? C'est de la dopamine. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de cette fameuse dopamine dans le trouble de l'attention. Donc, vous êtes beaucoup plus vigilant après avoir fumé une cigarette. Donc, vous avez du mal à vous endormir. Donc, c'est vrai que toutes ces substances, entre guillemets, il faut y faire attention. Mais quelque part, au niveau de l'alimentation aussi, il y a des aliments beaucoup plus stimulants et des aliments beaucoup plus apaisants. Il faut manger peu de protéines le soir. La protéine est stimulante, elle va faire un métabolisme immédiat. Par contre, il faut manger des sucres lents. Alors là, vous avez les diététiciens qui vont dire « Non, pas de sucre le soir, ça fait grossir ». Oui et non. Le cerveau a énormément besoin de glucose pour pouvoir travailler. Il faut donner sa dose de sucre lent pour bien dormir. Voilà. Et peu de protéines.
On n'est pas obligé de se vider le paquet de cacahuètes ou le paquet de chocolat. On mange un petit bout, quoi.
Oui, des pâtes complètes, des un pâtes peu de riz complet, des choses comme ça. Et alors, il faut manger, par exemple, des noix qui sont très riches en précurseurs de la mélatonine. Ce soit les noix de cajou.
Ah, c'est la saison en plus.
Oui, en plus c'est la saison. Donc il y a des choses à faire à ce niveau-là. Alors par rapport aux somnifères, là vraiment on met le pied dans un truc qui est vraiment terrible. Ou j'ose l'affirmer, je vais m'attirer des foudres, mais je pense qu'il faut vraiment comprendre que les premiers en faute, ce sont les médecins. Parce que c'est facile de donner un médicament avec lequel le patient va s'endormir rapidement. On va dire, oh, il est sympa, ce docteur, je dors vite. Et c'est beaucoup plus long d'apprendre aux gens à dormir, bien sûr. Alors, les médicaments, ils ont leur place. Je n'ai pas dit qu'ils ne devaient pas exister. Mais par rapport à une habitude, que ce soit une assuétude qui est psychologique ou physique, il faut absolument l'éviter. Et d'ailleurs, quand vous lisez tous les papiers, justement, de ces somnifères, surtout les benzodiazépines, il est marqué clairement, ne doit pas dépasser une semaine. Il y a des gens qui en prennent pendant des années non-stop. Le gros problème, c'est quoi ? C'est que les benzodiazépines vous donnent un endormissement plus aisé, vous rentrez plus vite en sommeil lent, léger. Mais ils suppriment le sommeil lent profond. Or, le sommeil lent profond est le seul sommeil qui, métaboliquement, est récupérateur, qui travaille non seulement sur votre récupération, qui travaille sur votre immunité. Donc, vos défenses immunitaires se font à ce moment-là. Votre mise en mémoire de tout ce que vous avez fait en journée et qui, en plus, doit arriver dans vos premiers cycles de façon très profonde pour pouvoir, après, passer le relais plutôt à un sommeil paradoxal. Donc, vous cassez des séquences de cycles de sommeil corrects. Et donc, in fine, vous aboutissez à quoi ? À un patient fatigué en journée. Il est plus fatigué par sa benzo que par le trouble de sommeil initial. Et donc, il va en reprendre. Et là, on est en vraie dépendance physiologique. Il faut apprendre aux gens ce que c'est le sommeil. Il faut apprendre aux gens comment dormir et prendre en appoint des médications de support, oui, mais pas en continu.
C'est typiquement le genre de médicament qui devrait être vendu par unité, parce que vous ne trouvez pas des boîtes de 7 dans les benzos.
Oui, tout à fait.
Général, les grosses boîtes de 20.
Tout à fait d'accord.
Ce serait typiquement le genre de choses où on se dit, bon, écoutez, vous ne dormez plus depuis un mois parce que vous êtes super angoissé, super stressé, vous êtes en burn-out, par exemple. Pendant 3 jours, je vous donne ça, vous allez au moins passer 3 bonnes nuits de sommeil qui vont vous réparer et vous aider à réapprendre.
Et vous aider à réapprendre. Vous avez dit la phrase importante. Il faut donner ça aux personnes personne pour se permettre effectivement de se sentir mieux, de reprendre confiance dans le sommeil aussi. Il faut avoir confiance dans cette fonction. Il faut avoir envie d'aller dormir. Il faut se dire que vraiment c'est un allié le sommeil, mais ça ne devrait jamais être le seul moyen de dormir. Et puis on arrive à des dérives épouvantables que l'on voit régulièrement, c'est des gens qui prennent leur benzo pour aller dormir et le matin qui prennent un stimulant pour aller travailler.
Les questions qui nous arrivent sur le site c'estlapremière.be sous l'icône de l'émission Questions clés. Moi, je dors très très mal, je rumine sans cesse et je ne sais pas comment faire. Je ne prends rien pour dormir mieux. Quand j'en ai l'occasion, je fais la grasse matinée. Eh bien, on va peut-être répondre à cette question parce que je pense que cette personne fait partie d'un grand nombre de personnes qui dorment mal, mais qui pourraient réapprendre à dormir. Oui. Et pourquoi ne pas utiliser la sophrologie en la matière ? Dans quelques instants, on reçoit Clémence Peix-Lavallée, bien dormir sans médicaments. C'est chez Odile Jacob. On se retrouve dans un instant avec Clémence Peix-Lavallée, elle est sophrologue et elle a publié un ouvrage intitulé « Bien dormir sans médicaments » paru aux éditions Odile Jacob. Il y a un CD qui accompagne évidemment cet ouvrage, un CD qui vous aidera, j'en suis certaine, à mieux dormir. Vous le comprendrez quand vous entendrez sa voix dans quelques instants.
Question clé.
Question clé.
11h midi sur la première. 11h midi sur la première.
Question clé.
Question clé.
Avec Véronique Thiberghien.
Clémence Peix-Lavallée, bonjour.
Bonjour.
Avec Bien dormir sans médicaments, paru aux éditions Odile Jacob, vous relevez quand même un défi assez important, puisqu'aujourd'hui, le manque du sommeil est quand même l'un des mâles du siècle. Les insomnies, les troubles du sommeil. Un actif sur trois a des difficultés à trouver le sommeil. Un sur cinq est insomniaque. Et la plupart ont recours à des médicaments, ce qui n'est évidemment pas une bonne solution. Vous, vous nous proposez des exercices de sophrologie très concrets. Mais en quoi, d'après vous, la sophrologie est un plus par rapport aux médicaments ?
Ah, la question est pertinente. La plus de la sophrologie, c'est qu'elle est naturelle et sans effet secondaire. Et l'objectif de la sophrologie pour le trouble du sommeil, c'est de réapprivoiser cet endormissement de qualité et un sommeil lent, profond, qui va permettre de récupérer.
Souvent, quand on a des troubles du sommeil, c'est ce qui revient souvent dans votre ouvrage, ça devient tellement obsédant, parce qu'on connaît l'importance du sommeil, bien sûr, on en est tous bien conscients, et puis subir ce manque de sommeil est assez troublant dans la journée, et puis peut devenir maladif, mais le manque de sommeil devient vite obsédant.
Oui, on appelle ça l'insomnie psychophysiologique, c'est que ça m'obsède tellement que je vais même, sans m'en rendre compte, mettre en place toute une stratégie qui va m'empêcher de bien dormir. D'ailleurs, comportementalement parlant, plus je veux dormir, moins je dors. Parce que plus je veux dormir, plus je donne un signal d'éveil à mon cerveau qu'il faut dormir. Mais quand mon cerveau reste éveillé par une consigne, il ne s'endort pas. Donc on va avoir effectivement beaucoup, beaucoup au démarrage. C'est souvent un vrai trouble du sommeil. C'est un accident de vie, une douleur physique, émotionnel, quelque chose qui s'est passé qui a troublé le sommeil. Et puis quand il s'installe, c'est souvent effectivement, par exemple, on observe très très bien les gens qui dorment bien, ils vont au lit, ils dorment, ils se réveillent, ils se lèvent. Les gens qui ne dorment pas bien, ils vont au lit, ils ne savent plus à quelle heure, mais ils vont au lit parce qu'il faudrait qu'ils dorment. Et puis, ils se réveillent la nuit, ben, ils restent au lit, alors que ceux qui sont en bonne santé, qui ont un bon sommeil, ils se lèvent et ils ne restent pas au lit. Donc, on va avoir vraiment une mise en marche de plein de petits déconditionnements d'un bon sommeil et plein de conditionnements d'entretien d'un mauvais sommeil. La règle du jeu, c'est je vais au lit, je dors. Je suis réveillée, je me lève. Mon lit sert à dormir et mon lit ne devient pas cet espace où j'attends le sommeil et il ne vient pas.
Et votre ouvrage « Bien dormir sans médicaments » nous donne des pistes, des clés, des exercices très pratiques et concrets, ainsi qu'un CD d'ailleurs, avec des exercices à pratiquer, qui utilisent évidemment la sophrologie. Et quelque part, par rapport à ce que vous venez de dire et au cerveau, la sophrologie va nous permettre peut-être de mieux reconnecter notre cerveau à son propre besoin à ce moment-là, à savoir celui de se reposer un peu.
Il va nous apprendre à lâcher prise, mais en douceur, c'est-à-dire naturellement, régulièrement. Tout simplement parce qu'on va diminuer l'activité électrique du cerveau, donc ce cerveau hyper excité dans la journée, mais complètement en éveil, en surstimulation, va progressivement ralentir. On va aussi se détendre, physiquement parlant, c'est important, le relâchement musculaire pour pouvoir dormir et bien récupérer. Et puis aussi, on va calmer son système nerveux par les exercices de respiration. Et ce système nerveux qui fait qu'on a le pied sur la pédale d'accélérateur pendant toute la journée, en fin de journée, on est encore le pied dessus et on ne sait plus le lever, on ne sait plus ralentir. Alors, ça peut être ralentir les émotions, ça peut être tout simplement calmer notre rythme respiratoire. Et on le voit bien, quand nos enfants dorment, ils sont détendus, peut-être même légers, sourire sur le visage. visage, ils ont une respiration ventrale, calme, posée. En les observant, on sait s'ils dorment ou ils ne dorment pas. Puis dès qu'ils sont réveillés, ils sont debout, ils ne restent pas au lit.
Alors, on revient d'une semaine de vacances, Clémence, et là, on a un peu fait n'importe quoi. Que ce soit adulte ou enfant, notre chronotype, là, on l'a complètement oublié hein, pendant une semaine. Et la plupart d'entre nous se sont même dit « Ouais, je vais faire des grasses matinées parce que je ne devrais pas me lever. Donc, je vais aller dormir un peu plus tard parce que j'ai remarqué que ma grasse matinée de ce matin, elle était complètement nulle puisqu'à 7 heures, j'étais levée comme d'habitude. Donc, je vais aller dormir plus tard en espérant faire une grasse mat. » On fait un peu tous ce genre de choses pendant les vacances, y compris avec les enfants d'ailleurs. Donc comment est-ce qu'on fait pour rattraper un peu les choses aujourd'hui ?
Alors déjà, quand on fait la grasse matinée, c'est vraiment le piège. On a l'impression de récupérer du sommeil. Et en fin de compte, on ne récupère pas la même qualité de sommeil. À la fin de sa nuit, on est dans un sommeil lent, léger. On est beaucoup dans du sommeil paradoxal. D'ailleurs, on rêvasse, on dit qu'on somnole, on rêvasse quand on dort entre 8h et 11h du matin. En même temps, ça nous détend, ça nous fait du bien, on est au chaud, c'est confortable. Comme on s'est réveillé plus tard, on va se coucher plus tard. Donc on va entretenir ce petit décalage horaire qu'on va mettre en place au bout de 3 jours. Si on le fait plus de 3 jours, voilà, même 2 jours, ça commence. L'horloge biologique s'est dit, oh là là, c'était pas ce qui était prévu. Il va falloir que je fasse un petit décalage horaire. Donc quand je vais revenir dans ma vie quotidienne, recommencer mon travail, les enfants vont retourner à l'école, moi aussi je vais retrouver un travail, je vais me retrouver avec ce décalage horaire. Il va falloir que, effectivement, je réactive. Donc la règle du jeu, c'est déjà, se réveiller heure fixe, à partir de ce moment-là, week-end compris, pour la semaine qui viendra, parce qu'on va démarrer, par exemple, le lundi, ou le mercredi, ça dépend, suivant les établissements, et on va, samedi, dimanche compris, on va prolonger pour que l'horloge biologique revienne à heure fixe. Et puis, pour l'optimiser, pour arriver à lui donner ce signal d'éveil, je me lève, je prends, si possible, une douche un petit peu chaude, mais pas brûlante, juste tiède chaude pour fermenter ma température corporelle. Je vais peut-être manger quelque chose, mais ne forçons pas l'alimentation. Si les enzymes digestives ne sont pas prêtes, ça va vous rester sur le ventre. Mais peut-être juste prendre une petite miette, voilà, pour donner l'indication que là, on aurait pu prendre un repas. On va aussi surtout se mettre à la lumière. C'est sûr que les 2-3 premiers jours vont être inconfortables. On accuse la fatigue.
Oui.
Et puis, au bout de 3 jours, on aura envie de se coucher, on reviendra à une heure de coucher normale. Il faut comprendre que ma nuit est la réaction à ce qui s'est passé dans la journée.
Bien dormir sans médicaments, c'est paru aux éditions Odile Jacob, Clémence Peix-Lavallée. J'imagine que vous dormez bien, vous.
Et je me sers de mes exercices quand je dors pas bien.
on va s'en servir, nous aussi, et nos auditeurs également. Merci beaucoup, Clémence, et belle journée à vous. Et
merci,
puis bonne nuit
tout
à l'heure.
Merci à tous.
Merci. Dans quelques instants, on revient évidemment avec notre invité en studio, le docteur Catherine Gillin est avec nous, il répondra à vos questions. Vous avez quelques trucs pour mieux vous endormir? La plupart du temps, vous nous conseillez de faire l'amour avant de nous endormir. C'est en tout cas ce que nous a conseillé Fred il y a quelques instants. C'est aussi ce que nous conseille d'ailleurs Olivier. Il dit que c'est magique et gratuit. Pourquoi le manque de sommeil favorise-t-il l'obésité? C'est une question à laquelle on pourra répondre dans quelques instants. Madeleine a 74 ans et son compagnon a 75 ans. Depuis 2-3 ans, elle et son compagnon dorment très bien dans leur fauteuil, mais se réveillent dans leur lit. Ils étaient des dormeurs normaux. Est-ce dû à l'âge, nous dit-elle? Et puis Françoise, qui est retraitée, n'a jamais aussi bien dormi. Il est essentiel de se réveiller spontanément. Pourquoi mettons des réveils si tôt pour les enfants qui doivent aller à l'école? L'enfant est toujours interrompu dans son sommeil. Pourquoi la vie doit-elle commencer si tôt, nous demande Françoise. Et puis Paul nous dit, depuis quelques années et un accident de voiture, elle dort très mal, entre 4 heures maximum avec médicaments. Son labo du sommeil était parfait, à part une période de rêve trop courte. On lui a parlé d'une thérapie comportementale, et bien peut-être passer aussi par un peu de sophrologie, Paul, pour vous y aider. On parle dans quelques instants avec le docteur Catherine Gillin des dernières découvertes. Vous l'avez dit, docteur, vous avez parlé de nettoyage du cerveau. On va un petit peu expliquer ça juste après ceci.
Question clé.
Question clé.
Sur la première. 11h midi sur la première.
Question clé.
Question clé. Avec Véronique Thiberghien.
Clémence Peix-Lavallée a donc écrit « Bien dormir sans médicaments » paru chez Odile Jacob. Il se fait et aussi que le Figaro Santé, qui est le supplément du Figaro, pour les mois de octobre, novembre, décembre, a publié un dossier spécial sur le sommeil et mieux dormir et les liens entre le sommeil et la santé. Il y a d'autres publications évidemment qui existent en la matière. Docteur Catherine Gillin, ce qu'on a entendu avec Clémence Peix-Lavallée, le lien par exemple entre ce qu'on a fait la journée et ce que sera notre nuit, c'est un lien qui peut être évident, mais qui n'est pas toujours bien pensé chez les gens.
Oui, c'est vrai. Il faut vraiment se rappeler que le sommeil est la continuité de notre cycle de 24 heures et que la journée est une partie, le sommeil une autre partie, et qu'ils sont vraiment... pardon. Interdépendants l'un de l'autre. La qualité de votre sommeil va aussi dépendre de ce que vous faites la journée et vice-versa. Et c'est très, très important. Et les mots-clés dans ce que cette dame a dit, c'est régularité. Il faut vraiment essayer de bien écouter son horloge biologique, son train de sommeil. Il est personnel à quelle heure on a le coup de pompe qui est vraiment va être le début de bon cycle et être déjà dans son lit à ce moment-là. Évidemment, il faut être sur le quai de la gare. Avoir, si possible, pouvoir... voir quel est vos cycles naturels avec un réveil spontané, parce que c'est très vrai que ce fichu réveil matinal est souvent malvenu. Pourquoi ? Parce que si on ne calcule pas d'arriver à ce qu'il sonne en fin de cycle et qu'il sonne par exemple en plein sommeil profond, on est complètement naze, hein, ça c'est clair. Être réveillé pendant un sommeil profond, c'est une horreur. Si on est réveillé en fin de cycle, on est réveillé bien, on est réveillé frais. Donc, essayons de voir dans des moments où on ne travaille pas, où on ne va pas à l'école, quels sont les moments de réveil tout à fait naturels et puis calculons le train de sommeil et puis le réveil matinal aussi physiologique que possible. La régularité du lever est fondamentale. Le lever de la semaine et le lever du week-end qui ne doit pas dépasser un cycle, c'est-à-dire une heure et demie de plus. Ça, c'est vraiment important, quitte à faire une petite sieste s'il le faut. Donc, il y a vraiment une connaissance de l'importance du rythme qui peut déjà permettre à beaucoup de gens d'arriver à mieux dormir.
Mais comme elle disait, on peut, en 3 jours, essayer de modifier un peu son rythme. Parce que par exemple, si je dois d'office me lever à 6h30 le matin, je dois adapter alors mon heure du coucher, des comportements le matin quand je me lève qui sont adéquats et quand je me dors qui sont adéquats aussi.
Tout à fait.
Et ma chronicité, comme elle l'appelle, s'adaptera et deviendra plus naturelle, plus
fluide. Tout à fait. C'est illusoire si on est vraiment obligé de se lever à 6h30 du matin, de se dire qu'on va dormir à minuit. Ça n'a pas de sens. Ouais. Et alors, ce qui est très très important aussi, bien sûr, le nombre d'heures compte, bien que c'est assez personnel. C'est vrai qu'il y a des petits et grands dormeurs. Mais ce qui est très important, c'est les moments où on les dort. Parce que l'adage qui dit que les heures avant minuit qu'on double est assez vrai, dans le sens que le premier sommeil profond, qui est fondamental au niveau justement immunité et mise en mémoire, se représente surtout dans les premiers cycles, en tout cas quand il fait noir, on va dire dans cette horloge biologique-là. Et alors, chez l'enfant, c'est absolument fondamental. C'est le moment de mise en mémoire de tout ce qu'on a appris dans la journée, donc qui va fabriquer les circuits du cerveau intellectuel plus tard. Et puis, c'est le moment où se sécrète l'hormone de croissance. Donc, les enfants grandissent s'ils vont dormir tôt.
Ils se réparent aussi, ils font plein de choses quand ils vont dormir. On parlait de régularité. Daniel a réagi en disant qu'il travaille dans la sonorisation et les horaires hyper fluctuants et souvent de nuit nous empêchent d'avoir un bon rythme de vie. Une solution baramine pour profiter d'un minimum de sommeil, on ne peut pas lui demander de changer de métier évidemment, mais d'avoir au moins des période plus longue peut-être pour pouvoir s'adapter.
Alors ça c'est un vrai problème de la société, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui sont obligés par leur travail d'avoir des horaires complètement décalés. Il y a beaucoup de métiers dans lesquels c'est le cas et c'est un problème pour leur horloge biologique. Donc que faire ? Essayer autant que possible d'avoir alors une régularité dans leur rythme à eux. C'est déjà important de ne pas trop décaler. Maintenant, il faut savoir que la nature est quand même assez bien faite. On a fait des études en supprimant le sommeil chez des volontaires, on dirait plutôt, dont un étudiant américain un peu fou qui avait envie d'être dans le Guinness Book et qui s'est empêché de dormir. Et ça, il a tenu quand même à peu près 11 jours, au bout desquels il a complètement perdu la boule. Mais après, il a récupéré parce qu'effectivement, ce que l'on voit, c'est si on donne une vraie bonne nuit récupératrice, hop, tout est reparti. Donc c'est pas mal. Profitons-en quand même, mais sans en abuser. Il faut dans la régularité, aussi régulier que possible, en se permettant bien sûr des écarts de temps à autre. Alors pourquoi, et vous le disiez, parce que finalement, j'ai fait un petit micro-trottoir en arrivant ici, et c'est vrai que la plupart des personnes m'ont répondu, le sommeil sert à ce que le lendemain je me sente bien réparé, c'est-à-dire bien physiquement et intellectuellement pour avoir une belle journée. Alors ça, oui, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute votre santé physique et morale dépend de la qualité de votre sommeil. Et quand je dis toute votre santé, c'est aussi votre avenir. Parce qu'on est de plus en plus persuadé, et on en a parlé notamment quand on a parlé des maladies neurodégénératives, que c'est lié à un mauvais sommeil. Que ce soit les maladies neurodégénératives, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, certainement l'obésité, le diabète, toutes ces maladies-là, je ne dis pas qu'elles n'existeraient pas, mais il y en aurait nettement moins si les gens parvenaient à bien dormir. Pourquoi ? Parce que cette fonction est fondamentale au niveau, comme on dit, réparation, mais aussi, et ça c'est vraiment important que de vous le signaler par rapport à des toutes nouvelles découvertes, c'est que la nuit, il y a vraiment un nettoyage du cerveau qui se fait. Donc ce que l'on savait déjà, c'est que c'était la nuit, comme je le disais, qu'on enregistre en mémoire, c'est quand même fondamental, hein, toute votre mémoire, qu'elle soit bibliographique ou ce que vous apprenez, c'est la nuit que ça se passe. Chez l'enfant aussi, on peut en reparler plus tard, c'est la nuit que vous faites toutes vos défenses immunitaires. Il ne faut pas oublier, immunitaire, c'est contre les agents extérieurs, mais aussi contre vos propres erreurs. Les réparations génétiques se font toujours la nuit. Et alors, on a découvert en 2012 que nous avons dans le cerveau un système de drainage lymphatique. Donc, on le connaissait au niveau du corps, mais on ne le connaissait pas au niveau du cerveau. Donc, le drainage lymphatique, la lymphe, c'est vraiment cette circulation différente de la circulation sanguine qui permet justement de vraiment...
Nettoyer toutes les toxines.
Oui, oui, de drainer tous les déchets, toutes les toxines pour pouvoir arriver à les éliminer du corps. Donc, nous avons... un drainage lymphatique au niveau du cerveau. Et en 2015, on s'est vraiment rendu compte de comment ça fonctionnait. Donc, c'est vraiment des données très récentes. On appelle ça le système lymphatique, qui vient du mot glie. La glie, c'est l'ensemble des petites cellules qui ne sont pas les cellules fondamentales. Ce n'est pas les neurones, astrocytes, oligodendrocytes. C'est les petites cellules qui forment le tissu cérébral et qui ont un rôle immunitaire très, très important. Et il y a un rôle entre cette glie et ce système lymphatique qui fait qu'il y a vraiment un nettoyage avec un gradient artério-veineux. Ça va chercher dans le sang, ça traverse le tissu cérébral et puis c'est éliminé au niveau veineux et système lymphatique cervical. Eh bien, figurez-vous que ça ne se passe que la nuit. Et donc, maintenant, on pense qu'une des fonctions fondamentales du sommeil, c'est ça, c'est Bruxelles propreté la nuit.
Avec toutes les toxines de notre cerveau qui peuvent être responsables de toute une série de maladies neurodégénératives,
alors,
par exemple.
Les toxines et aussi l'arrivée d'erreurs. Donc, si vous vous rappelez, dans l'Alzheimer, on avait dit qu'il y avait une accumulation de la bêta-amyloïde.
Oui.
Alors, cette bêta-amyloïde, on en fabrique tous, tout le temps, et de plus en plus avec l'âge. Eh bien, la nuit, ce système lymphatique va aller drainer et nettoyer et enlever cette accumulation de bêta-amyloïde. On le sait aussi pour l'alpha-synucléine dans la maladie de Parkinson. On a comme ça des tas d'hypothèses maintenant de compréhension, d'élimination de toxines qui nous permettent d'éviter des maladies aussi gravissimes que cela. Alors, quand on nous demande qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir un Alzheimer, et on sait que malheureusement, il y a des prédispositions génétiques, enfin, qu'il y a des tas de raisons, on nous parle de bringer, maintenir. Oui, mais d'abord, dormez bien. Et on le sait aussi par les examens du sommeil qu'à peu près 15 ans avant la déclaration de maladie neurodégénérative, notamment dans la maladie de Parkinson, il y a des altérations significatives du sommeil qui nous permettent de prédire que le patient est sans doute en route pour ce type de maladie.
Oui, donc effectivement, une découverte qui pourrait, peut-être pas à chaque fois, comme vous l'avez dit, parce que prédisposition génétique étant présente, mais peut-être ralentir l'arrivée ou la progression de ce type de maladie aussi.
Ralentir, mais peut-être éviter aussi, parce qu'une prédisposition génétique ne veut pas dire que vous allez le faire de toute façon.
C'est pas une signature, en tout.
C'est toujours l'accumulation de différents facteurs qui vont faire que vous allez développer une maladie ou l'autre. Au niveau de l'obésité et du diabète, ça c'est évident qu'il y a un lien, il y a quelqu'un qui vous a posé la question, il y a un lien tout à fait clair. Pourquoi ? Parce que la nuit, il y a un tas d'équilibres au niveau de nos hormones qui se passent, et il y a une altération avec, je ne vais pas citer les noms, ça n'a pas d'importance, mais il y a une certaine hormone de satiété qui n'est plus libérée, et par contre, il y a une hormone de « ouais, j'ai faim » qui est libérée, et donc on grignote de plus en plus.
Pardon. Donc on mange n'importe quoi en plus.
On grignote de plus en plus. il y a aussi une altération de la façon dont on met nos réserves qui fait que petit à petit, les gens vont développer l'obésité, les gens vont développer une intolérance au glucose et développer du diabète. Et puis on le sait, l'obésité favorise les apnées, ce fameux syndrome des apnées du sommeil qui est vraiment très très fréquent. On arrive quand même à 25% au-delà de 65 ans, c'est une personne sur quatre, c'est énorme. Mais ça peut arriver très tôt. Moi j'ai des patientes d'une vingtaine d'années qui en ont. Ça peut arriver chez l'enfant. L'enfant avec ses grosses amygdales qu'on entend ronfler la nuit, c'est vraiment important. Alors on dit, oh le pauvre, il ronfle. Qu'est-ce que ça veut dire ronfler? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des apnées? Ça veut dire privé d'oxygène pendant un certain temps, notre cerveau qui bien sûr souffre et donc avoir quand même des conséquences assez dramatiques. Donc il y a des tas de raisons qui peuvent être maintenant reconnues et éliminées pour empêcher le développement de maladies gravissimes. Il ne faut pas oublier que le syndrome d'apnée du sommeil vous amène à 100% de diabète, à 80% d'infarctus du myocarde, à 60-70% d'accidents vasculaires cérébraux et à environ certainement 10 à 15% de risque de démence.
Mais quand on entend tout ça, on comprend finalement que la première chose qu'on a envie de se dire, c'est mais dès que je ne dors pas une nuit, j'en deviens très angoissée, évidemment, parce que je me dis, je me prépare une cartographie de maladies les plus joyeuses qui soient.
C'est vrai.
On va y revenir dans un instant.
11h midi.
Question clé.
Question clé sur la première.
Avec Véronique Thiberghien.
Et avec le docteur Catherine Gillin qui est avec nous, neurologue, et vos messages qui nous arrivent sur le site lepremière.be. Pascal, mon mari souffrait d'importantes insomnies. Après beaucoup de visites chez différents médecins, tests du sommeil, etc., et une farouche volonté d'éviter toute médication, il a abouti chez un médecin généraliste avec une spécialité en nutrition. Changement de régime alimentaire, plus traitement chez un kiné spécialisé du petit bassin pour découvrir qu'une sollicitation nerveuse était activée par un coccyx mal positionné. Après une trentaine de séances et une vigilance alimentaire, il a retrouvé un sommeil réparateur. Cet épisode douloureux nous a vraiment sensibilisés à l'importance de soigner en profondeur les troubles du sommeil par une modification sensible de nos comportements de vie. Thierry, voilà presque 10 ans déjà que j'avais entendu le docteur Catherine Gillin ici même. C'est vrai, ça ne nous rajeunit pas, le docteur. Mais quel bonheur de l'avoir ensuite rencontré. Un burn-out soigné et une démarche pour un meilleur sommeil. Et enfin, des nuits de récupération. Ma recette, une cure de lumière en automne, un repas light le soir, pas toujours possible, et là, je sais que la nuit sera plus difficile, la CPAP, et surtout essayer de ne plus stresser. Encore merci, nous dit Thierry. Et puis,
c'est sympa.
Un autre auditeur qui nous dit « Je m'endors assez facilement, mais souvent trop tard. Les activités durent souvent tard. Revenir du travail vers 19h, s'occuper de ma fille, la mettre au lit, souper. Il est vite 22h30 quand on a fini. Quand je n'ai pas une réunion jusqu'à 23h, du sport en plus, etc. Et le matin, il m'est difficile de me lever. Je suis fatiguée. Comment faire quand on n'a pas assez de temps dans une journée ? Eh bien, il faut s'en faire. Il faut arrêter de se laisser bouffer.
Quelque part, oui. Il faut accepter que la biologie est supérieure aux exigences, entre guillemets. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à faire.
Et il y aura toujours, si on a envie, qu'il y ait toujours quelque chose.
Il y a toujours quelque chose à faire, soit envie, soit obligé. Donc, à un moment donné, il faut se mettre le haut là, se mettre la limite, en sachant que certains jours, on va déborder forcément. Ça. Il parlait de sa réunion, ce jour-là, il rentrera plus tard. Mais si dans le quotidien, il peut vraiment essayer d'aller au lit pour 22h30, 23h maximum pour un adulte, c'est vraiment bien.
Les enfants, qui sont quand même notre préoccupation première, et puis c'est dans l'enfance que les bonnes habitudes se prennent, même si à l'adolescence ou un peu plus tard, elles peuvent se perdre quand on est étudiant, qu'on fait un peu de guindaille, mais enfin ça c'est autre chose. C'est quand même là qu'on va peut-être mieux aussi agir sur l'avenir.
Alors ça c'est tellement fondamental que c'est très 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 important de faire passer le message. Le cerveau de l'enfant est un cerveau en croissance. Nos enfants ne sont pas des adultes en miniature, pas du tout. Et on trouve normal de les voir grandir sur la toise, on met des petits traits sur le mur. Si on pouvait voir le nombre de connexions entre les neurones, de réseaux qui se créent, de synapses, c'est extraordinaire. Mais tout ça se passe pendant la nuit. Et ça se passe jusqu'à 15 à 17 ans. Et surtout dans les 10 premières années de la vie. Donc, il est absolument fondamental de donner une bonne qualité de sommeil à nos enfants, c'est-à-dire suffisamment tôt, s'il vous plaît, et pendant de nombreuses heures, parce que tout leur avenir intellectuel dépend de ça. La preuve en est, On en avait parlé dans des émissions d'épilepsie.
Oui.
Il existe une épilepsie qui s'appelle l'épilepsie à pointe onde continue du sommeil lent. Comme son nom l'indique, c'est un dysfonctionnement électrique majeur durant le stade de sommeil lent profond qui fait quoi ? L'enfant ne fait pas des crises cliniques. On se rend compte qu'à l'école, il perd ses apprentissages, il perd en qualité de langage, il perd en qualité de calcul, d'écriture. Il a une modification du comportement, il devient difficile, il est colérique, il devient un peu comportemental. Et quand on y pense, évidemment, on le fait faire un électroencéphalogramme de nuit et on découvre ce problème. C'est un problème majeur qui peut mener à des débiles, à des psychotiques, à des autistes. Donc, cette pathologie est la preuve que quand ça ne fonctionne pas, ça ne va pas. Et donc, c'est la preuve que quand ça fonctionne bien, la nuit, quand vous couchez vos enfants, ce n'est pas seulement qu'ils soient frais le matin, c'est effectivement, il va créer tous ces circuits d'apprentissage, que ce soit les apprentissages scolaires, mais aussi les apprentissages éducatifs, ludiques, enfin, tout ce qu'il découvre dans la vie. Et la qualité de son raisonnement va dépendre de ça. C'est pendant la petite enfance. Alors, s'il vous plaît, surtout, je veux dire, ne restons pas. Enfin, moi, j'ai entendu des parents qui me disaient « Oui, mais bon, je rentre tard et je n'ai pas le temps et après, je ne le vois pas, j'aime bien qu'il regarde la télé avec moi. » Non, non. Parce que vous êtes en train de fabriquer un adulte. Oui. Et pour que cet adulte soit aussi optimal que possible dans sa vie, il faut qu'il aille dormir à des heures quand même suffisantes. Alors, une heure suffisante, c'est quoi ? Ben, je veux dire, quand on est petit, c'est 7h, 7h30. Aller en primaire, c'est 7h30. En fin de primaire, grand maximum 8h, pas plus. Et en secondaire, ça ne devrait pas dépasser 9h, 9h30. Alors, je sais que tout le monde va hurler en entendant ça, mais c'est la vérité. Nos adolescents sont fatigués. Ils ne devraient jamais l'être. Ils sont en plein métabolisme positif. Ils sont en anabolisme.
Mais ils dorment plus quand même, non ?
Si.
Oui. Non. Ils ont besoin de plus de sommeil ou pas ?
Alors, ils ont besoin de plus de sommeil qu'un adulte, oui. Absolument. L'adolescent a besoin de plus de sommeil qu'un adulte, mais
il ne
le respecte pas du tout. Et alors là, c'est absolument fascinant. Depuis l'avènement de l'électricité, il y a une centaine d'années, l'être humain, en 100 ans, a déjà perdu 2 heures de sommeil. Imaginez un peu, l'Homo sapiens est là depuis 200 000 ans. Oui. En 100 ans, on a déjà perdu 2 heures. Eh bien, figurez-vous, et c'est justement dans le Figaro que vous avez cité, les adolescents, en une génération, donc 25 ans, ont perdu 50 minutes de plus. Et 50 minutes sur quoi ? Sur leurs écrans. Internet, téléphone, etc. Donc en plus, ils ont une mauvaise qualité du peu de sommeil qu'ils ont parce qu'ils se sont shootés à la lumière bleue.
Donc ça veut dire que dans la moyenne de sommeil réalisée par l'ensemble de la population, en une génération, on a perdu 50 minutes.
Absolument.
Dans cette moyenne ?
C'est énorme, oui, oui. Oui. Et alors on s'étonne que les gens sont moins performants, que les gens ont une baisse de vigilance. Les gens sont irritables, les gens sont impatients. Il y a une augmentation considérable du nombre d'accidents, accidents de la route, accidents domestiques, accidents... Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être vigilant quand on a mal dormi. Donc finalement, le sommeil sert à quoi ? Comme on l'a dit, et un peu comme tout le monde le ressent, à se sentir bien en journée, bien dans son corps, bien dans sa tête, présent, compétent, actif. Mais ça sert aussi à réparer tous nos organes, notre cerveau, mais aussi le reste, à éviter le développement de maladies. Je pense que fondamentalement, tout le monde a envie de rester en bonne santé. Mmh. Eh bien, la clé de la bonne santé, c'est le sommeil. Alors, c'est vrai qu'il y a des pathologies du sommeil. Si au moins tout le monde pouvait respecter cette fonction et avoir un comportement d'acceptation, de mise au lit et de préparation du sommeil, ça irait déjà nettement mieux. Et puis, si ça ne marche pas, alors on doit identifier. Il ne faut pas prendre des médications à l'aveugle, il faut identifier. Faire un examen du sommeil et à partir de là, réfléchir. Qu'est-ce qu'on voit sur l'examen du sommeil ? Qu'est-ce qu'on peut proposer au patient ? Comment l'adapter à sa propre vie ? Bien sûr, il y a les exigences sociétales, familiales. Comment adapter les troubles d'une personne, la maladie éventuelle ? Si on découvre une narcolepsie, on traite une narcolepsie, évidemment. Si on découvre un syndrome d'apnée du sommeil, on traite le syndrome d'apnée du sommeil. Mais, s'il vous plaît, si on a un patient qui est complètement cassé le matin et à qui on donne une benzodiazépine et qu'en fait, il a un syndrome d'apnée du sommeil, on aggrave ce syndrome d'apnée du sommeil. Or, c'est déjà quelque chose qui s'auto-aggrave de 50% par an. Donc, il faut identifier les raisons pour lesquelles on ne dort pas bien et arriver à réfléchir et à mettre en place tout, que ce soit au niveau comportement, alimentaire, c'est très vrai, le témoignage que vous avez eu sur ce monsieur, c'est très très vrai, alimentaire, c'est très important aussi. Donc comportement, alimentaire, éventuellement certaines médications pendant un temps sous contrôle, et bien sûr toutes les techniques de relaxation dont on a déjà parlé.
C'est vrai qu'on ne connaît pas, par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure, des noix qui favorisent la production dans le corps de mélatonine. Oui. C'est des choses qui ne sont pas très connues et c'est pourtant des choses simples
à mettre
en place.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre mélatonine monte? D'une part, il faut s'exposer à la lumière le matin. Parce que quand vous vous exposez à la lumière le matin, votre horloge biologique va sécréter votre mélatonine 12 heures plus tard.
Je me lève à 6 heures du matin, maintenant il n'y a plus de lumière.
Une petite luminothérapie, c'est parfait.
D'accord.
Ok, 10 à 20 minutes, pas plus, ouais. À l'aise. Donc luminothérapie le matin. Il faut avoir une chronobiologie correcte dans la journée. Il faut par contre le soir diminuer votre température corporelle. C'est fondamental. On fait ça comment? En se relaxant, en essayant, oui justement, de ne pas se chauffer. Il y a des femmes qui font leur ménage en rentrant. Non, on a chaud quand on fait le ménage. Quand on repasse, on a chaud. On ne fait pas le match au squash, etc. On en a déjà parlé. Et en diminuant le cortisol. Le cortisol, on en a besoin le matin. Le pic est à 8 heures du matin. Mais à 8 heures du soir, il doit être bas. C'est l'hormone éveillante. Comment diminue-t-on notre cortisol? En nous apaisant. Donc, ce n'est pas le soir qu'on regarde ses factures. Ce n'est pas le soir qu'on résout les problèmes de couple. C'est à un autre moment. C'est le samedi matin. Vous voyez? Il y a des moments pour faire les choses. Le soir, on se détend.
Des moments pour chaque chose et faire des choix.
Faire des choix, absolument.
Avec ses choix et choisir à un moment donné de renoncer un peu à son sport pendant quelques mois au moins et essayer de voir si ça améliore le sommeil, le sport le soir, je pensais pas.
Le soir, la journée, il faut
le mettre en dehors. Oui. Si on ne peut pas la journée, on y renonce et faire des petits renoncements ou des adaptations pour avoir un meilleur comportement, ce qui arrangerait en grande partie quand même certains troubles du sommeil. Merci beaucoup, docteur Catherine Gillin.
Plaisir.